288. Dans ce chapitre du Tanya, le chapitre 43, nous étudions actuellement, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine précédente, nous étudions l'importance de l'amour de Dieu. On a expliqué que, contrairement aux apparences, d'une certaine façon, craindre Dieu, c'est beaucoup plus facile qu'aimer Dieu. Pourquoi ? Parce que craindre, c'est facile. Je sais que Dieu a tous les pouvoirs, je sais que Dieu peut tout faire, donc c'est quelque part facile d'avoir peur de Dieu. Il suffit qu'il y ait un drame qui se passe, dans ma vie, chas v'shalom, ou dans la vie de quelqu'un d'autre, chas v'shalom, pour que je comprenne qu'il faut que je me range, et que j'ai pas intérêt à faire le malin, parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc craindre Dieu, c'est relativement facile. Par contre, aimer Dieu, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, lorsque j'aime quelque chose, ça veut dire que j'ai créé une relation avec la chose. J'ai créé une relation avec la chose, que je m'identifie par rapport à cette chose. Alors c'est facile de créer une relation par rapport à un objet matériel, ou par rapport à une personne, par rapport à une femme, par rapport à un enfant, par rapport à... etc. Ça c'est facile. Mais créer un sentiment d'amour par rapport à Kadosh Baruch Hu, ça c'est plus compliqué. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Et la Gemara Zakai nous a expliqué que même si une personne sent qu'il n'a pas d'amour envers Dieu, il n'aime pas Dieu. C'est pas qu'il déteste Dieu, je ne parle pas de ça. Il sent aucun sentiment, ni chaud ni froid, ça ne lui parle pas, ça ne l'intéresse pas. On est arrivé à la conclusion la semaine dernière que tout le monde doit énormément réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir, qu'est-ce que Dieu représente dans ma vie. Et avec le temps, on arrivera à l'aimer. Ça, c'est lié au Ayom Yom d'aujourd'hui, qui explique qu'un des fondements de la chassidoute, c'est de comprendre que le cerveau domine le cœur. C'est-à-dire qu'au final, tout démarre de la tête. Tout démarre de la tête. Je dis, oui, mais je ne sens rien pour Dieu, je n'ai pas de sentiments, je ne sens rien, etc. On dit, ce qui se passe dans ton cœur provient de ce qui est dans ta tête. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important de beaucoup réfléchir à la Kadosh Baruch Hu. Donc ça, je ne rentre pas trop dans les détails, puisque ça, on l'a déjà expliqué dans les cours précédents. Ok. Maintenant, la question est la suivante. C'est une vraie question qu'on va poser aujourd'hui, comme toutes les questions qu'on pose dans Tania. Dans la relation que nous avons avec Dieu, quelle étape doit venir en premier? Est-ce que c'est l'amour qui va amener la crainte? Ou est-ce que c'est la crainte qui va amener l'amour? Moi, je me rappelle une fois, j'ai fait un remplacement dans une classe. Vous savez comment ils sont les enfants? Dès qu'ils savent que c'est un remplaçant, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils font la fête. Alors j'ai un copain à moi qui m'a dit je vais donner un grand principe. En général, les professeurs ils rentrent et ils commencent par l'amour. Ça veut dire, ils disent, moi je suis un prof gentil, je suis un prof sympa et tout. Mais à la fin, quand ils voient que ça marche pas, alors là ils piquent une crise. Mais c'est trop tard, parce qu'on le connaît déjà le prof. Il m'a dit, moi je te conseille, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand tu rentres dans la classe, ultra sévère, la crainte. Et après progressivement tu remontes l'amour. Bon, c'est intéressant ce qu'il a dit, je sais pas si ça marche ou ça marche pas. Mais je fais ça pour illustrer, parce que c'est une vraie question qui se pose. Dans la relation que nous avons avec Dieu, est-ce qu'on doit commencer par la crainte et c'est la crainte qui amènera l'amour? Ou est-ce qu'on doit commencer par l'amour et c'est l'amour qui amènera la crainte? La crainte qui amène l'amour ou l'amour qui amène la crainte? Et c'est pareil dans l'éducation des enfants. T'as des gens qui te disent, moi mes enfants, j'ai pas envie de les éduquer avec la crainte. Je parle pas la crainte, la peur. Je parle la crainte, c'est-à-dire savoir qu'il y a des règles. Donc ils les éduquent avec l'amour. Que avec l'amour. Mon fils prend, mon fils tient, tout ce que tu veux, mon fils prend. Après le jour où il comprend que son fils est en train de lui monter sur la tête et qu'il est en train de faire n'importe quoi, là tout d'un coup il lui dit, bon mais arrête. Mais l'autre il l'a déjà écrasé, c'est terminé.
Mais au début c'est un bébé.
D'un autre côté, exactement. D'un autre côté, il y en a qui vont dire, mais comment tu vas commencer? Comment tu vas commencer avec la crainte? D'abord donne-lui le goût, donne-lui envie, promets-lui un bonbon, fais le travail pour les bonbons, et après tu vas, il va comprendre qu'il travaille pour quelque chose. Donc vous comprenez que la question qu'on pose, c'est un vrai dilemme qu'on se pose dans toutes les relations interhumaines, et même dans la relation avec Dieu. Quelle étape doit être en premier? Est-ce que c'est l'amour qui est... Est-ce que d'abord on doit développer un sentiment d'amour, et après progressivement la crainte viendra? Ou est-ce que d'abord on doit démarrer par les règles, par la crainte, et après l'amour viendra? C'est une grande question. Et la Gemara Zakai aujourd'hui va nous donner la réponse. La réponse à cette question, et je pense que c'est un message pour toute la vie. Ça, c'est un principe que si on arrivait à mettre en pratique ce chapitre dans la vie de tous les jours, on aurait évité beaucoup de problèmes. Des problèmes dans l'éducation de nos enfants, des problèmes dans les couples, des problèmes dans les sociétés, dans les entreprises. C'est toujours le même problème, les relations entre les employés et les patrons. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on va être un patron cool ou est-ce qu'on va être un patron strict? Et c'est peu importe la piste que tu prends, tu auras toujours quelqu'un qui te dira que tu es trompé. Et dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Pareil avec Dieu. Quelle relation je dois avoir avec Dieu? Comment je commence ma vie? Est-ce que je dois commencer ma vie qu'à un enfant, de commencer à lui dire que ça c'est assourd, c'est assourd, c'est assourd, et après avec le temps il prendra le goût? Ou d'abord on dit non, on ne lui dit pas c'est assourd, on ne lui parle que de la beauté, que du kiff des mitzvot, et quand il grandira, il comprendra ce qui est interdit. La réponse va nous donner la Morazakel aujourd'hui. Veine, page 288. Je suis deux paragraphes avant la fin. Veine. Prinata avazo. Peamim shekodem et leira. Cet amour dont on a parlé la semaine dernière, l'amour que nous avons envers Dieu, parfois, cet amour arrive avant la crainte. Kefi prinata da'at amolida kanoda. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais parfois, cet amour vient avant la crainte. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens qui, d'abord, ils vont aimer Dieu, et après, ils vont développer un sentiment de crainte. Des fois, on pose la question à des gens, on leur dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as fait tes chouvas? T'avais tout ce que tu voulais. T'avais l'argent que tu voulais, t'avais les plaisirs que tu voulais, t'avais tout ce que tu voulais, tout d'un coup, pourquoi t'as fait tes chouvas? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait tes chouvas? Alors, il y a des gens, et c'est rare, qui vont te répondre, ils vont te dire, j'ai eu un sentiment d'amour envers Dieu. J'ai eu un élan, j'ai eu envie de m'approcher de Dieu. Mais c'était pas un sentiment de crainte, c'est pas que j'avais peur que le Guéhinnom va me tomber sur la tête. Non. C'était un sentiment d'amour, d'accord? Un sentiment d'amour que j'ai eu. Et après, progressivement, ce sentiment d'amour, il se transformait en crainte. Parfois, c'est comme ça. Honnêtement, en général, c'est pas comme ça. En général, quand tu demandes aux gens pourquoi tu as fait tes chouvas, qu'est-ce qu'ils te répondent? Ils disent parce que j'ai eu une prise de conscience. Par exemple, il a eu un proche qui est parti, ou il a eu, je sais pas, ou il est venu pour un kaddish, ou il est venu pour un... Il est venu, c'est-à-dire par la crainte, d'accord? Et après, tac, après, il a eu l'amour qui est venu après. Donc, ce que dit l'Admorazaken. L'Admorazaken te dit, parfois, dans certains cas, et on va expliquer comment ça fonctionne, parfois, dans certains cas, l'amour vient avant la crainte. C'est possible. C'est possible pour certaines personnes. D'abord, ils ont un élan d'amour envers Dieu, et après, ils auront la crainte. Mais au début, il n'y a pas de crainte. C'est possible. Je saute le crochet. On passe à la page suivante, page 289. Velachen, c'est pour cela. Deuxième paragraphe. Velachen, c'est pour cela. Efchar la racha ou va la verot. C'est la raison pour laquelle il est possible à un racha et à une personne qui fait des fautes. Page 289 maintenant. Velachen, c'est pour cela. Efchar, deuxième paragraphe. Le racha ou va la verot. Il est possible à un racha et à un pécheur. Shia aset shuvah me ahava nolda belibo. Qui fasse tes shuvah. De l'amour qui naît en son cœur, Bezorro et Hachem Elokav, lorsqu'il se souvient de Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, en d'autres termes, je vais essayer de vous dépeindre ce portrait. On peut avoir une personne, 400 coups. Un vrai. Un rachat, un pro. Pas un amateur, un vrai. Et tout d'un coup, entre deux fautes, tu vois, entre deux fautes, il a, entre deux avions, entre deux bêtises, d'accord, il a tout d'un coup un sentiment d'amour vers Dieu, une passion, il se dit, je kiffe Dieu, comme ça. Et il repart. C'est possible. C'est pas un maboul. C'est possible. Ouais. C'est possible que tout d'un coup, un homme se rappelle de Dieu. C'est possible. Tout est possible. Seulement, vous comprenez que des situations comme ça sont extrêmement rares. C'est très rare, ça. Des gens qui vivent une vie pleine de frivolité et que soudainement, ils ont un élan vers Dieu, un élan d'amour. C'est bizarre. C'est quelque chose de très rare, ça. Voilà, c'est ce qu'il te dit. Donc, ça peut arriver, mais c'est rare. Ça veut dire, ne comptez pas dessus. Ne croyez pas que si je me suis éloigné de Dieu, je compte sur l'amour qui viendra d'un coup. C'est comme un bonhomme qui est là, et il s'est éloigné de sa femme, de tout le monde, etc. Il croit que tout d'un coup l'amour va revenir. Ça n'existe pas, ça. Ça peut arriver, c'est possible que des fois, tout d'un coup, comme ça, 14h42, un mercredi, tu sais pas combien, grand, pac, un élan comme ça. C'est pas d'où il est sorti.
C'est un amour éphémère, ça.
Ah non, c'est pas forcément éphémère. Des fois, c'est un élan comme ça, pac. Des fois, c'est une prise de conscience comme ça, et t'as comme les fusées, vous voyez, comme une fusée comme ça qui décolle, et après t'es parti. Mais c'est très rare. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter dessus. En général, c'est rarement l'amour qui amène la crainte, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt la crainte qui amène l'amour. Pourquoi? Parce que quand tu as la crainte, tu apprends à respecter la personne. Et quand tu apprends à respecter la personne, c'est là que tu peux l'aimer. C'est pour ça que ça fonctionne. Pour ça qu'on te dit, même dans l'éducation, même dans tout, etc., t'es obligé d'avoir un sentiment de crainte à un certain moment. Pourquoi? Deux secondes. Parce que si tu n'as pas le sentiment de crainte, t'as pas le respect. Et si t'as pas le respect, t'as pas les règles. Quant à les règles, quant à le respect, tu sais que ça, c'est une personne que je dois respecter. Après, tu peux l'aimer. Si tu ne respectes pas, comment tu vas aimer? Tu n'as rien à faire de lui, tu l'écrases. Tu peux arriver parfois à avoir un élan d'amour, comme c'est possible. Mais c'est très rare, il ne faut pas compter dessus. Monsieur Benita, vous voulez dire quelque chose?
Oui, simplement, quand on craint quelqu'un, on l'évite. On
va pas lui donner forcément. De l'amour. Non, pas forcément.
Si. Non. Si je crains ce monsieur, je l'évite.
Non, c'est Shalom.
Ah ben si.
Monsieur Benita, ce soir c'est l'anniversaire de mon père. Oui. D'accord. Oui, il arrive. Il nous rejoint à 9h30. Vous appelez lui le SMS. Il va lire le Mahamar. Il va nous étudier le Mahamar. C'est un honneur qu'on a. D'accord. Je lui ai proposé de venir. Il m'a dit avec plaisir. Et donc pour qu'il nous récite le Mahamar et qu'il nous dise quelques mots à l'occasion de son anniversaire. Voilà, 9h30 tout à l'heure. Donc une maman inspire l'amour. Un papa inspire la crainte. Mais on l'évite pas son papa. Au contraire, on est content d'être à côté de lui, mais c'est pas le même sentiment. On n'a pas le même sentiment devant son papa et devant sa maman.
D'accord, mais enfin, à partir du moment où j'ai la crainte envers quelqu'un, non, donc je ne peux pas dire que j'ai de l'amour vers lui.
Bien sûr, je peux avoir de l'amour, bien sûr, mais la crainte, c'est...
La crainte est loin de l'amour.
La crainte, ça met des règles, ça met le respect. Donc c'est ça la grande question qu'on a. Je veux m'approcher de Dieu, mais comment ça démarre? Est-ce que je travaille sur mon amour ou sur ma crainte? Réponse de la Gemara Zaken, je te dis dans toutes les relations humaines, et à plus forte raison avec Dieu. Il peut arriver parfois, c'est possible, qu'il y ait un élan d'amour comme ça, subitement, d'accord, de façon impromptue, et que, effectivement, cet amour va enclencher la machine, et qu'après, tu auras l'amour, la crainte, etc. Mais il ne faut pas compter dessus. En général, c'est rare. Ou Mikol Makom, quand même, je suis à la page 289. Aïra gam kelkula bamime la rakshi prenat katnut ve elem dainu ir atret limrodmo chaz shalom ve avay bitgalut libomo. Ok, j'explique ce qu'il dit ici. Il dit, il faut savoir que dans tous les amours, même dans un amour comme celui qu'on va expliquer maintenant, il y a toujours un peu de crainte. C'est quoi la crainte? Quand tu aimes quelqu'un, t'as peur de le décevoir.
T'as peur de le perdre.
T'as pas envie de le perdre. Donc il te dit, même si tu me parles du grand amour qu'une personne dit tout d'un coup, il a un grand amour vers Akadosh Baruch Hu, ce qui est extrêmement rare que ça démarre de l'amour. D'accord? Normalement, ça démarre pas de l'amour. Mais même si ça démarrait de l'amour, dans cet amour, il y a une petite dose de crainte. C'est que tu te dis, j'ai pas envie de le perdre. J'ai envie de m'approcher de Dieu et j'ai pas envie de le perdre. Seulement, il précise tout de suite, il dit, Ar Zehu Derech Mikri Veoracha. Le fait qu'une relation avec Dieu commence par de l'amour, c'est un fait exceptionnel. Et c'est une prescription d'urgence. Ça veut dire en d'autres termes, des fois, il y a des gens qui sont partis tellement loin et qu'ils n'ont aucune chance de revenir parce qu'ils sont emportés avec la Goya, avec tout ce que tu veux et tout, qu'il n'y a aucune chance qu'ils reviennent. Plus rien ne lui parle, ni qui pour, ni rien du tout. Et là, en prescription d'urgence, il y a peut-être en haut un tzadik qui a prié pour cette personne, ou peut-être un parent qui a prié pour cette personne, qui dit à Dieu, fais quelque chose. Tu dis, il est parti, c'est fini, il est mort, là. Il ne reste plus rien. Et n'attends pas qu'il va revenir par la crainte. Il est HS. Il est hors circuit, hors service. Et là, en prescription d'urgence, Dieu peut décider d'envoyer un élan d'amour à cette personne. Parce que vous savez comment ça fonctionne, l'amour. L'amour, c'est comme un miroir. Quand tu envoies de l'amour à quelqu'un, il te renvoie de l'amour. Quand tu envoies des nerfs à quelqu'un, il te renvoie des nerfs. Des fois, il y a des gens, tu vois, tu rentres, tu les sens méchénèves, tu deviens méchénèves. C'est pas pourquoi. Parce que comme il est rentré, il t'a envoyé des ondes méchénèves, t'es devenu méchénève. Méchénèves. D'accord? Maintenant, t'as des gens, ils rentrent avec un sourire. Et même si t'étais méchénève, mais tu souris parce qu'il sourit. Tu comprends? T'es là, t'es pas bien. Et tu vois un enfant qui arrive avec un grand sourire. T'es obligé de sourire. Pourquoi? Parce qu'il t'a développé des ondes de sourire, des ondes de simra. Donc, automatiquement, tu souris. Vous voyez ce que je veux dire ici? Alors, il dit comme ça. Parfois, hein, Dieu arrive à la conclusion qu'une personne est tellement loin que rien ne pourra le ramener. Donc Dieu lui dit, bon, dans ce cas-là, c'est moi qui vais faire le premier pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais lui envoyer un grand sentiment d'amour. Je vais penser très fort à lui maintenant. Et automatiquement, le juif, il est obligé de penser à Dieu à ce moment-là. Parce que quand tu envoies de l'amour à quelqu'un, il te renvoie de l'amour. Et donc tout d'un coup, il ne sait pas pourquoi. Et mercredi, 14h42, il ne s'est rien passé. Il était entre deux fautes. Il était même en plein milieu d'une faute. Et tout d'un coup, il se met à penser à Dieu. Waouh, je kiffe Dieu. Il dit, mais d'où ça me sort là? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est exceptionnel, et c'est en prescription d'urgence. Let's sorer cha, mais ne comptez pas dessus. Et on a des exemples, des cas où c'est arrivé. Je tourne la page. Kemaase, de Rabbi Elazar ben Tourdia. Comme l'histoire de Rabbi Elazar ben Tourdia. Je vais raconter brièvement l'histoire de Rabbi Elazar ben Tourdia, qui est racontée dans la Gemara, dans le traité Avodah Zara, page 17. D'accord? La Gemara, elle raconte que Rabbi Elazar ben Tourdia, je fais rapidement son histoire parce que c'est une longue histoire. Rabbi Elazar ben Tourdia n'a pas laissé une prostituée dans le monde qu'il a entendue qu'il n'est pas parti la voir. Pas Hutzel.
Ah bon?
Oui. D'accord. Maintenant, une fois, Rabbi Elazar ben Tordeya, avant, c'est une histoire, monsieur militaire. C'est une vraie histoire.
Ah ben alors, donc c'est plus une histoire.
D'accord. Si c'est une vraie histoire. Donc, la Gemara raconte que Elazar, donc Eliezer ben Tordeya, il n'a pas laissé une prostituée dans le monde qui n'a pas, avec laquelle il n'a pas eu de relation. Et une fois, il a entendu qu'il y avait une prostituée qui était très très loin, à côté de la mer, quelque part. Et elle prenait une bourse de dinars en tant que salaire. Donc ça veut dire que c'était du haut vol, quoi. Excusez-moi du terme. Et donc lui, il a entendu ça, il a fait toute la route pour voir la prostituée qu'il n'avait pas encore vue. Il a préparé la bourse, il est parti. Et on dit que pour aller la voir, il a traversé 7 fleuves. Et il voulait aller à son but. D'accord? Et là, ce qui s'est passé, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est... Bon, lorsqu'ils étaient en train d'avoir des relations, il y a eu une flatulence qui est sortie de son corps, du corps de cette femme.
Une quoi?
Flatulence, d'accord? Qui est sortie du corps de cette femme. Alors, et là, Rabbi Elazar ben Tordeya, il a eu une pensée comme ça. Il a dit, de la même façon que cette flatulence est sortie du corps et qu'elle ne reviendra jamais dans le corps, de la même façon, Elazar ben Tordeya, il est sorti et il ne reviendra plus. Comme ça, il a une pensée comme ça qui lui est venue. Une flatulence, ça reviendra dans le corps? Ça revient pas. Donc il dit, moi aussi, je suis une flatulence, j'ai quitté le corps du peuple juif et je reviendrai jamais. Il a une pensée comme ça qui lui venait à l'esprit. Il y a d'après une autre version, c'est cette femme, la prostituée, qui lui a dit, Eliezer ben Tordeya, elle a dit, toi, tu pourras jamais revenir. Toi, tu pourras jamais revenir. D'accord? Alors, là, quand il a entendu ça, ça l'a marqué. Il a eu un flash. Pourtant, des fois, il en avait fait. C'est pas la première ni la dernière. Il est passé par des dizaines de kippours. Mais là, ça l'a marqué. Et donc, il s'est dit quoi? Je peux pas faire teshuva. Moi, je peux pas faire teshuva. Vous savez, même quand on faute, toujours on se dit, mais bon, je faute, mais je reviendrai quand je voudrai.
J'ai une chance.
Ça veut dire, je maîtrise, je contrôle la situation. J'ai fauté, mais quand je veux, je reviens. Ça va, je suis maître de la situation. Mais là, quand il a entendu cette phrase, ou bien quand il a eu cette pensée avec la flatulence, il a compris qu'il était parti trop loin et qu'il ne pouvait plus revenir. Qu'il était pris dans un engrenage duquel il ne pouvait pas sortir. Alors, la Gemara, elle raconte que Eliezer ben Tordeya, il est parti s'asseoir entre deux montagnes et deux vallées. Les commentaires disent que c'est le symbole des patriarches et des matriarches. Et donc, il leur a demandé, il leur a dit, montagne et vallée, ça veut dire patriarche et matriarche, demandez pour moi la miséricorde. Alors ils lui ont dit, mais attends, tu veux qu'on demande pour toi la miséricorde? D'abord, on va demander pour nous. En d'autres termes, ils ont fait comprendre qu'ils n'ont pas l'aider. D'accord? Ensuite, il y a toute une histoire dans la Gemara là-bas, à qui il a demandé, ça veut dire qu'on dit qu'il a invoqué, les fleuves, il a invoqué ci, il a invoqué ça, etc. En fait, c'est le symbole qu'il a invoqué tout le monde. Il a invoqué les patriarches, les matriarches, les prophètes, il a invoqué tout le monde. Et tout le monde lui a dit d'une façon ou d'une autre, on peut pas t'aider. C'est mort. Parti trop loin. Et là, une fois qu'il a demandé à tout le monde, donc tant qu'il c'était quand même quelqu'un d'un certain niveau, hein, parce que pour parler au patriarche, au matriarche, on parle pas à n'importe qui ici. Il avait une très très grande neshama.
Il a une très grande neshama,
c'est un très très gros moteur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était tellement attiré par le mal, parce que c'est proportionnel. Et donc, à ce moment-là, il a compris, il a dit, dans ce cas-là, ça dépend que de moi. Si personne ne peut m'aider, alors je vais m'aider tout seul. Et la Gemara raconte que il a posé sa tête entre ses genoux et il a commencé à pleurer jusqu'à ce que Neshama est sorti de son corps et il est mort. Et à ce moment-là, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit Rabbi Elazar ben Tordeya est invité à la vie du monde futur. Au même moment, à des milliers de kilomètres, il y avait Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la Mishnah, qui était au courant de ce qui venait de se passer, qui a entendu cette voix et qui savait exactement l'histoire qui venait de se passer. Il s'est mis à pleurer. Et il a dit, devant ses élèves, Yesh kone olamo bekamashanim, yesh kone olamo besha achat. Il a dit, il y a des gens qui pourront acquérir leur monde futur, il leur faut plusieurs années, et encore, on ne sait pas s'ils vont réussir. Il y a des gens qui, en un instant, vont acquérir leur monde futur. Parce qu'il y a eu la voix du ciel qui a dit que Rabbi Elazar ben Tordeya est invité olamo au monde futur. Alors qu'il a fait toutes les bêtises. Ça veut dire qu'il a une teshuva, et cet instant, ces quelques secondes de teshuva qu'il a eu, lui assure le Gan Eden. Il était au Gan Eden. Et là-bas aussi, il a dit Rabbi Yehuda Hanassi. Il a dit, regardez le Baal Teshuva. Non seulement qu'on l'accepte en haut, mais on l'appelle Rabbi. Et c'est, en haut, ça rigole pas en haut. En haut, si on l'appelle Rabbi, c'est que c'est un Rabbi. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, ce maître, on l'appelle Rabbi Elazar ben Tordeya. Alors qu'on n'a appris aucun enseignement de lui, à part la Teshuva, évidemment. Mais, ça veut dire, il a jamais fréquenté les maisons d'études, il a jamais étudié la Torah, il a jamais rien fait tout ça. Il a fait toutes les bêtises possibles. Alors, quand on a lu cette histoire, comment ça fonctionne? Alors, évidemment, c'est une personne qui est mort d'amour. Il est mort d'amour pour Dieu. On est d'accord? Ça veut dire qu'on a dit qu'il a placé... C'est pas de crainte. C'est pas de crainte.
De chagrin,
d'accord? Non, c'est pas de chagrin. Non, pas de ça. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est qu'il a eu un amour tellement fort que cet amour a fait que sa neshama n'arrivait plus à être contenue par son corps. Le corps n'arrivait plus à contenir la neshama. Donc du coup, l'amour... Sa neshama s'est envolée au point qu'il est passé à kalot anefesh. Kalot anefesh, c'est-à-dire que sa neshama s'est envolée. Exactement comme l'amour qu'ont eu Nadav et Aviou, les enfants de Aaron. Il y a un amour comme ça qui s'est enflammé et que le corps ne maîtrisait plus. Ah, alors, attendez deux secondes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Rabbi Elazar ben Ouria, il a eu un grand amour. D'où lui est venu ce grand amour? Comment un gangster comme ça, maintenant j'ai pas le droit de l'appeler comme ça parce qu'on l'appelle Rabbi, comment une personne comme ça, qui est passée par tellement de fautes, qui a été tellement encrassée, parce que les Averot, chaque Avera s'encrasse. Et vous savez comment ça marche l'Averot? On est toujours dans la surenchère. C'est-à-dire que la Vera qui m'a attiré aujourd'hui, demain ne m'attire plus, donc je vais aller plus loin, et ça ne s'arrête pas. Donc lui, il est parti très loin. Alors comment cette personne-là, tout d'un coup, il a eu un sentiment d'amour pour Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé, Makara? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a eu ce sentiment d'amour vers Akadosh Baruch Hu? La réponse est très simple. C'est qu'apparemment, il y a eu quelqu'un qui a prié pour lui, en gros. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui a dû dire à Akadosh Baruch Hu, ou Dieu lui-même qui a dit, il a dit, celui-là, il ne peut plus revenir. Celui-là, il reviendra jamais par la crainte, il n'a pas peur. Et il n'aura plus peur. Il ne peut plus avoir peur. Il n'a plus peur. Même si on amène un drame, ça ne lui fera pas peur. C'est pas ça celui-là, on peut l'attirer que par l'amour. Donc ça, c'est un événement exceptionnel, d'accord, pour des hommes d'exception et pour des situations exceptionnelles. Rabbi Elazar ben Ouria, c'est un exemple. Est-ce que Dieu le fait pour tous les Rechaïm? Je ne sais pas. Mais on connaît beaucoup d'histoires dans l'histoire juive, d'accord, beaucoup de cas. Il y a eu des gens qui étaient très 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 loin, et tout d'un coup, ils ont eu un élan, ils sont revenus. On comprend pas, de façon inexplicable. Sans qu'il y ait un drame qui s'est passé dans leur vie. Sans qu'il y ait eu une perte, sans rien du tout. Ils sont revenus. Ça, c'est des gens qui, quelqu'un qui a prié pour eux. Il y a eu un tzaddik qui a prié pour eux, il y a eu Dieu qui a, je sais pas, ou bien Dieu, il a eu un, on sait pas pourquoi, ça, on n'est pas dans les calculs de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un exemple pour nous montrer que dans certains cas exceptionnels, la relation avec Dieu peut démarrer par l'amour. Et c'est un amour qui peut être tellement fort qu'on peut mourir d'amour. Il est tellement fort l'amour que le corps n'arrive même plus à contenir cet amour. Ça, c'est un exemple de l'amour. Vous savez, pour vous donner un exemple, comment l'amour, parfois, peut emporter quelqu'un. Je vais raconter une histoire que j'ai racontée ce soir à mes enfants avant de dormir. L'Admour Hazaken, on va célébrer cette semaine, jeudi soir d'ailleurs, je vous invite, avec grand plaisir, j'y serai avec ma famille, il y a de la place pour tout le monde, et c'est très sympa. Jeudi soir au Palais des Congrès, à partir de 20h, les Rattachem. Même plus tard, vous pouvez venir, mais c'est très sympa, une très très belle soirée, avec plusieurs milliers de personnes, c'est un événement de l'année à ne pas rater, le Rosh Hashanah de la Chassidut. C'est la date à laquelle Rabbi Schneur Zalman, l'auteur de ce livre, a été libéré de prison, et c'est à partir de ce moment-là que tous ses enseignements sont sortis. Parce que, quand un tzaddik est emprisonné, ça veut dire que son enseignement est emprisonné dans le ciel. C'est pas Stam qui l'a emprisonné. C'est-à-dire que dans le ciel, on veut le brider. C'est pour ça qu'il est emprisonné. Et lorsque le tzaddik sort de prison, c'est-à-dire que dans le ciel, on l'a débridé. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que jusqu'à son emprisonnement, l'Admour Hazaken, il y a des petites vartoras très très courtes, très concis. Il fallait être très très fin pour comprendre et répéter 50 fois. Mais on a vu qu'après qu'il est sorti de prison, là, ses discours ont pris une nouvelle ampleur et c'est suite à ça qu'on a eu le Tania. Si on a un Tania aujourd'hui tellement développé, c'est quelque part grâce à l'emprisonnement. C'est comme, c'est dur à dire, mais c'est comme l'olive. La Gemara dit que l'olive, comment elle sort son huile? Il faut l'appuyer, il faut l'écraser. Et parfois, même les tzadikim, parfois, pour qu'ils sortent leur huile, ils ont besoin d'être écrasés. Nous aussi, les Bnei Israël. Comment on sort notre huile? Dieu préserve. C'est quand on est écrasé. Espérons qu'on passe pas par ça. Alors, l'Admour Hazaken, en tout cas, il est passé par une période très difficile dans laquelle il était emprisonné. C'est pour ça que je pense que, j'ai pas encore raconté l'histoire, c'est pour ça que je pense que chacun de nous qui étudie le Tania, il doit être doublement et triplement et quadruplement concerné pour participer jeudi soir. Au pire, vous pouvez suivre en live sur Facebook, mais bon, je pense que c'est un événement comme ça, on le suit pas en live, un événement comme ça, on vient. Alors, en tout cas, ce que je veux dire, voilà l'histoire. L'histoire, c'est que lorsque l'Admour Hazaken était emprisonné, il était emprisonné 53 jours. Comme le nombre des 53 chapitres du Tania. Les Chassidim disent que chaque jour d'emprisonnement correspondait à un chapitre du Tania. Et 53 jours. Il était emprisonné 53 jours, et l'Admour Hazaken, lorsqu'il était emprisonné, à un moment, il a reçu la visite d'un ministre. Un ministre russe. qui était quelqu'un de très instruit, et qui est venu le voir pour lui poser des questions. Alors bon, déjà, il est venu en incognito, quand il est venu habillé en civil, et tout de suite, dès qu'il est rentré, l'Admor HaZaken, il s'est levé, il a dit « Bonjour ministre », etc. Alors il lui a dit « Mais d'où vous savez qui je suis ?» Il a dit « Parce que c'est écrit dans la Kabbalah qu'avec chaque personne qui vient, même si c'est chez les Goïm, avec chaque ministre qui vient, il y a une aura de Kedusha qui vient. Enfin, il y a une aura qui vient autour de lui. Il dit « Autour de vous, j'ai vu l'aura, donc j'ai compris que... » Donc bon... Et plus, etc. Le ministre, il lui dit, est-ce que vous savez quelle heure est-il? Il lui dit, vous savez comment faisaient les Russes? Ils déstabilisaient, ils mettaient dans des pièces obscures, ils se faisaient croire que c'est le jour, c'est la nuit. Alors il lui dit, vous savez, il est minuit. Il dit, non, il est 14h. Enfin, il lui dit, vous savez? Il dit, parce que chaque heure de la journée a ses combinaisons de Kedusha du nom de Dieu, et là, il est exactement telle heure. Il a sorti l'heure exacte. D'accord? Bon, il a bluffé. Mais c'est pas le but. Il pose des questions, il faut répondre. Et là, le ministre, il a dit, bon, j'ai une question à vous poser. Il a posé la question. Il a dit, j'ai étudié la paracha Bereshit. Il était très instruit, il connaissait la Torah. Et dans la paracha Bereshit, il est écrit que Dieu a parlé à Adam, une fois qu'il a mangé le fruit défendu, et Dieu a dit à Adam, Ayeka, où es-tu? Alors le ministre a posé une question au Admor HaZaken. Il lui a dit, pourquoi Dieu pose la question à Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne sait pas où est Adam? Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Tu sais où il est? Pourquoi tu poses la question où es-tu? Alors l'Admor HaZaken, il a répondu la réponse qui est écrite dans Rashi, que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas surprendre Adam HaRishon. On lui dit Adam, etc. On le dit en tombant dessus. Donc il a donné le temps de réagir. Tu lui dis où es-tu? Comme ça donne le temps à Adam de réagir. Dieu évidemment sait où il est. Et donc c'était pour rentrer avec Adam dans les paroles. C'est comme quand t'appelles quelqu'un. Et là, tu dis allô. Maintenant avec le numéro qui est affiché, tu sais très bien qui tu appelles. Mais c'est comme ça. C'est pour on rentre pas direct dans la discussion. Alors là, plus forcément quand c'est Dieu qui parle, Dieu il dit ah où es-tu, etc. Pour te chercher, tu vois, pour te faire quelques sonneries avant de te parler. Alors le ministre il a dit à l'Admor HaZaken, il a dit non mais la réponse de Rashi je la connaissais. Moi je veux votre réponse. Très instruit. Alors, Admor HaZaken, il lui pose une question. Il lui dit, avant de vous donner ma réponse, je dois vous poser une question. Est-ce que vous croyez que la Torah est éternelle, qu'elle parle en tout temps, dans toutes les générations et pour tout homme? Est-ce que vous croyez à ça? Le ministre répondit, dit, oui, je le crois. On raconte que Admor HaZaken, lorsqu'il a entendu ça, il a été rassuré, parce que ce ministre était lié au ministère de la Justice. Et Admor HaZaken le savait spirituellement, et donc il était rassuré que celui qui allait gérer son cas est une personne qui croit en Dieu. C'est quand même un point important. Quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Bon, et ça c'est une parenthèse. Donc il a posé la question à Admor HaZaken. Admor HaZaken lui a posé la question. Il dit, est-ce que vous croyez que la Torah est éternelle et qu'elle parle en tout temps, dans toutes les générations et à tout homme? Il dit oui, je crois ça. Alors Admor HaZaken lui a dit comme ça. Il a dit d'après moi, voilà comment il faut expliquer ce verset. Lorsque Dieu il dit à quelqu'un « Ayeka, où es-tu ?» Dieu est en train de poser une question à quelqu'un. Lorsqu'il lui dit « Où es-tu ?» Ça veut dire « Où es-tu ? Qu'est-ce que tu es dans ta vie ? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ?» Et c'est pas une question seulement que Dieu a posée à Adam HaRishon. C'est une question que Dieu pose à chacun de nous, à chaque instant, dans toutes les générations, en tout temps, dans toutes les générations et à chaque personne. Dieu lui pose la question « Ayeka, où es-tu ? » Depuis combien de temps tu vis ici ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie avec toutes les années et tous les jours qu'on t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait? Ayeka, où es-tu? Où en es-tu? Où es-tu? Oui, c'est attendez. Et l'Admor HaZaken, il s'est tourné vers le ministre et il a dit, Dieu vous pose la question maintenant. Où es-tu avec tant et tant d'années? Et là, il a cité pile l'âge du ministre. Bon, on n'était pas un miracle près, d'accord? Donc il a dit, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait avec tant et tant et tant exactement, avec la date exacte, d'accord? D'années que tu n'as donné dans ta vie. Le ministre, cette réponse l'a beaucoup touché. Et il a dit, Admor HaZaken, il a dit bravo, bravo, d'accord. Bon, enfin, il a été touché. Et bon, suite à ça, le ministre est parti. Ce que le ministre ne savait pas, c'est qu'en vérité, il venait de sauver la vie de l'Admor HaZaken. Pourquoi? C'est l'Admor HaZaken qui raconte ça, plus tard. Il dit que, au moment où le ministre est venu le voir, l'Admor HaZaken était dans un moment de très grande. Kelot Anefesh, c'est-à-dire son âme était en train de s'envoler. Pourquoi? Il était content d'être en prison. Pourquoi il était content d'être en prison? Parce que là, il y a un sentiment qui est venu comme ça d'amour vers Dieu, et il a senti qu'il était content d'être en train de donner sa vie pour Dieu, pour la Torah, pour défendre des valeurs. Et il était tellement content que sa neshama, elle s'envolait, elle s'envolait, elle s'envolait, elle était en train de partir. Et pile à ce moment-là, Dieu lui a envoyé le ministre. qui lui a posé la question. Et la Moura Zaken, il a raconté, il a dit, lorsque j'ai répondu au ministre, où en es-tu? Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu as accompli ta mission? Est-ce que tu n'as pas accompli ta mission? Eh bien, en posant la question au ministre, je me suis posé la question à moi-même. Et je me suis dit, où en es-tu dans ta vie? Est-ce que tu as déjà terminé ta mission? Est-ce que tu as déjà écrit le Tania? Enfin, il n'a pas dit ça, mais est-ce que tu as déjà transmis ce que tu devais transmettre? Et là, il dit, dès que j'ai eu cette idée dans la tête, ça m'a calmé tout de suite. Et j'ai compris que ce n'était pas le moment de partir de ce monde et que j'avais encore du travail. C'est-à-dire que le ministre lui avait quelque part sauvé la vie. Et ça, c'est un exemple pour nous montrer. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on vient expliquer ici que parfois l'amour qu'on a vers Akadosh Baruch peut nous faire envoler. La Neshama peut s'envoler complètement. Et l'Admor HaZaken, c'est comme ça qu'il était sauvé. Je vous ai raconté la semaine dernière que l'Admor HaZaken, des fois, il partait en transe. Il était en transe dans cette fila, etc. Et qu'il fallait le calmer. Ras Veshalom, c'est-à-dire qu'il avait besoin de temps. Il partait en transe, c'était un amour, on peut même pas imaginer. De la même façon qu'aujourd'hui un homme peut devenir fou pour une femme ou pour une bêtise, d'accord? C'est pas qu'une femme c'est une bêtise, Ras Veshalom, mais c'est-à-dire pour une bêtise on peut devenir fou, d'accord? Et bien l'amour à Zaken, c'est la même chose spirituellement, comme on a vu chez les grands tzadikim. Il avait cet amour. Et là, il a ce Ayeka. Ce Ayeka, c'est cette question constante qui est où en es-tu? Est-ce que tu as déjà accompli ta mission dans ta vie? Vous savez, c'était le dernier 19 qui se lève qu'on a vécu avec le rabbi. C'était qu'après que le rabbi avait eu son attaque, le rabbi néanmoins sortait vers le public de temps en temps, tous les quelques jours, mais il pouvait pas parler. Et il parlait avec les gestes. C'était dans les dernières années, en 93 et début 94. Et le dernier 19 qui se lève, il y a eu tête qui se lève, toujours le rabbi faisait faire une tête qui se lève, là il pouvait pas faire une gaine. Donc il est sorti vers les chassidim, et ils ont chanté, ils ont fait des nigounim. Et à un moment, le rabbi, il arrêtait pendant au moins, je sais pas, une heure ou au moins plus qu'une heure, j'ai pas mais pendant longtemps, le rabbi mettait la main comme ça, et comme si il demandait
l'aumône.
Non, pas l'aumône, comme si il demandait quelque chose. Il demandait qu'est-ce qui se passe. Et les chassidim, tout le monde, ils essayaient de comprendre qu'est-ce qui dérange le rabbi. Le rabbi ne pouvait pas parler. Donc ils ont essayé de les secrétaires du rabbi ont essayé de demander au rabbi est-ce que le rabbi veut dire ça. Ils ont essayé, etc. On a plein de chassidim qui ont envoyé des propositions, qui disent est-ce que le rabbi veut dire ça, mais on n'a pas réussi à trouver.
Il pouvait écrire?
Bien sûr, il pouvait écrire. Non, le rabbi pouvait pas écrire. Ah, il était fatigué, d'accord. Mais comme ça pendant longtemps, il posait une question, et les chassidim ont expliqué après que peut-être que la question que le rabbi posait à chacun, c'est une photo qui tu vois cette photo, pas elle fait peur, mais elle te remet en question. Tu vois une photo du rabbi comme ça, qui est très fatigué, avec la main comme ça, tu vois, comme du style. Moi, je sens comme Ayeka, où en es-tu? Et moi, je suis là, je suis malade, je suis là en train d'essayer. Où en es-tu? Est-ce que tu as fait ce qu'on attend de toi? Où en es-tu? C'est une question qui est éternelle, ça. C'est ce qu'on voulait dire de Mourazaken. C'est pas une question que Stam a posée, il dit Adam, où es-tu? Il dit je suis dans le jardin. C'est une question éternelle. Une question que Dieu te pose, tu dis, où en es-tu? Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fabriques? Ça, c'est pour nous montrer comment l'Admor HaZaken s'est calmé par ce Ayeka, par ce où es-tu. Je voulais vous raconter encore deux anecdotes à ce propos. Première anecdote, c'est que l'Admor HaZaken, puisqu'on est autour du tête qui sait, donc je me permets de faire plus d'anecdotes, l'Admor HaZaken, il n'est pas né dans une famille chassidique. Il est né dans une famille lituanienne, qui était très loin de la chassidoute. Et l'Admor HaZaken, lorsqu'il s'est marié, il voulait avancer dans la Torah. Il y avait son beau-père qui le finançait, etc. Comme c'était en tout cas, il pouvait le faire. Et donc, l'Admor HaZaken était là, et il se posait la question dans quel yeshiva je vais aller. Il avait le choix entre Vilna et Meserich. Vilna, c'était l'école du Gaon de Vilna, où on étudiait la Gemara. Et Meserich, c'était l'école du Magid Meserich, on étudiait aussi la Gemara, mais on étudiait aussi la Chassidut. Et l'Admor HaZaken, il appartenait pas du tout à la Chassidut. Il s'est posé la question, où je vais aller? Alors il a posé la question aux gens, il a dit, qu'est-ce qu'on apprend à Vilna? On lui a dit, à Vilna, on lui apprend la Gemara. Et qu'est-ce qu'on apprend à Meserich? On lui a dit, à Meserich, on apprend la Chassidut et on apprend à prier. Alors il s'est dit la chose suivante, il a dit, étudier la Gemara, je pense que je sais étudier la Gemara. Enfin, en tout cas, j'ai quand même des connaissances. À cet âge-là, l'Admor HaZaken, il avait étudié plusieurs fois le Chasse, tout le Talmud, avec tous les poskim, enfin, il avait déjà passé plusieurs fois en revue tout ce qui existe. D'accord? Donc, il était à un niveau très élevé. Bien sûr, on peut toujours apprendre, il n'y a pas de question. Mais il dit, par contre, la prière, ça, je ne connais pas. Donc, il a décidé d'aller chez le Magid Meserich. Lorsqu'il est arrivé chez le Magid Meserich, il est arrivé, il devait être, je sais pas, 10h du matin, il les avait en train de prier. Il dit, mais c'est quoi cette histoire, là? 10h du matin, il prie. Lui, il avait l'habitude, 7h du matin, la prière est terminée. Entrée, il voit 10h du matin, il prie. Donc ça l'a choqué, il est reparti. Mais Dieu a fait qu'il a oublié son écharpe. Et il est retourné. Il est retourné, donc il a pris la route, il a marché quelques kilomètres. Et il s'est rendu compte qu'il a oublié son écharpe. Donc il est revenu pour chercher son écharpe. Et quand il est revenu pour chercher son écharpe, il a vu qu'ils avaient déjà terminé la tefila. Et il a vu que le Maggid Mizrich, il était assis avec toute son équipe d'élèves. Il s'est en train d'étudier la Gemara. Et il a vu comment il posait une question sur une sugya du Gemara qu'il connaissait. Donc il a dit, ah tiens, je vais les dans le tournant, je vais voir comment ils vont répondre. Et il a écouté, ils ont posé la question était très bonne. Et lui, il a fait sa réponse, évidemment. Mais il a attendu de voir ce que les élèves ont proposé. Lui aussi, il a proposé une réponse. Après, le Maggid Mizrich, il a repris les réponses de toutes les élèves. Il a dit, maintenant, je vais vous expliquer comment on étudie cette Gemara dans le ciel. Et il leur a tourné la Gemara. Dommage, on n'a pas de trace de toutes ces explications. Et il leur a expliqué comment la Gemara s'étudie en haut et il a donné une dimension complètement nouvelle. Ça l'a bluffé. Il est revenu pour l'écharpe et il est resté. Et c'est comme ça que l'Admor HaZaken a accroché la Chassidut. D'accord ? Maintenant, l'Admor HaZaken, il ne connaissait pas la Chassidut. Il ne connaissait pas. Il connaissait la Gemara, mais il ne connaissait pas la Chassidut. Alors, le Maggid, c'était d'ailleurs le plus jeune des élèves. Et on l'appelait le Lituanien. Le Lituanien. Et l'Admor HaZaken, il a parlé avec le Maggid Mizrich. Le Maggid Mizrich lui dit, écoute, j'ai un deal à te proposer. J'ai un fils. Mon fils s'appelle Rabbi Avraham. Ce Rabbi Avraham, on l'appelait Rabbi Avraham l'ange. Pourquoi on l'appelait Rabbi Avraham l'ange? Parce que c'est une personne, on dit, qu'il connaissait même pas la forme d'une pièce. Tu lui donnes un billet de 500 ou un billet de 200, un billet de 100, il était incapable de faire la différence. Une personne qui était ailleurs. Et lui, il était très 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 fort en chassidout, en kabbalah, etc. Alors il a dit la chose suivante. Il a dit, je vais te proposer quelque chose. Toi, tu vas apprendre la Gemara avec mon fils, et lui, il va t'apprendre la chassidout. Ils ont fait un deal, une heure, tous les gens. Maintenant, l'Admor HaZaken, il raconte que tous les jours, ils avaient un deal. Et l'Admor HaZaken, il commençait bien sûr par étudier avec le Rabbi Avraham Balach, d'accord, sans commencer par la chassidout. Et il raconte que parfois l'étude était tellement belle qu'il profitait d'un moment où Rabbi Avraham il était en train de réfléchir, et il prenait la montre et il tournait un petit peu pour rester plus longtemps. Il voulait étudier plus longtemps chassidout, d'accord. Il y avait un deal, une heure, d'accord. Donc bon, l'heure après il a donné, mais son heure de chassidout elle durait parfois plus qu'une heure. Il tournait la montre un petit peu. Et il raconte la chose suivante. Et là, vous allez comprendre le rapport avec le cours. Il raconte qu'une fois, il était en train d'étudier un sujet très profond de Kabbalah. Il n'a pas dit quoi. Et il a dit, là, on sentait que notre Neshama était en train de partir. On sentait que sa Neshama, ma Neshama, on était en train de décoller. Je ne sais pas si vous imaginez deux tzadikim comme ça, qui montent. Mais notre Neshama est en train de partir. Et là, il raconte, il dit, j'ai senti que ma Neshama était en train de partir. Je suis parti chercher du pain avec du beurre. On a mangé le pain avec le beurre et on s'est calmé. Il faut comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, c'est des tzadikim que même du beurre, ils mangeaient pas. Ça veut dire, pour eux, ils mangeaient du pain, c'est tout. Et là, du pain avec du beurre, c'était une forme de matérialisme. Tu vois, on a pris du pain avec du beurre. Pour les, hein? Pour revenir, pour redescendre. Là, c'est encore un exemple pour vous montrer à quel point l'Admor HaZaken était une personne qui pouvait partir en transe et qui sait exactement de quoi il parle ici. Quand il parle de Rabbi Elazar ben Dordaya et quand il parle de cette transe, il sait exactement de quoi il parle. Enfin, une dernière histoire. Après, on va avancer dans les mots. Dernière histoire, c'est avec le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, une fois, il a dit à la famille d'un de ses élèves. Je crois que c'était Rabbi Bounine de Pachisra, mais je suis pas sûr. C'est un des élèves du Baal Shem Tov. Il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, lorsque votre père fait la tefila ou lorsque votre mari fait la tefila, faites attention au allez-nous. Allez-nous. Son allez-nous, il peut s'envoler dans son allez-nous. Dès qu'il leur a dit comme ça. Il a dit, dès que vous sentez que dans le allez-nous, vous voyez qu'il bouge un peu trop, tout de suite, hop, vous le calmez et vous le faites redescendre. C'est ce que le Baal Shem Tov a dit.
Il décolle.
D'accord ? Il dit, il décolle, oh, allez-nous. Allez-nous, le Shaber, il décolle. Bon. Et comme ça, tous les jours, il y avait toujours, soit sa femme, soit un de ses enfants, soit un de ses élèves qui étaient là, et il le guettait pendant la tefila, et tout le temps, dès qu'il arrivait à allez-nous, on voyait comment c'est... Hop, on lui faisait un truc, il dit, oui, d'accord, c'est bon, hop, il terminait son allez-nous, et après, il terminait la tefila, après, il partait son étude. Une fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois, avec le temps, ils avaient des repères. Ils savaient, par exemple, que le Baruch Shamar, il durait tant de temps, d'accord, que l'Amida, que le Ashrei, il durait tant de temps. Donc, ils avaient des repères. Et à un moment, il était au tout début de la tefila. Donc, l'élève qui était là le surveillait, il a dit, bon, avec mon expérience, là, il en a au moins pour une bonne heure ou plus avant d'arriver à Elenou. Donc, il est parti faire des affaires, enfin, faire ce qu'il avait à faire. Et il dit, je vais revenir pour Elenou. Il revient après, au bout d'une heure. Il voit son maître allongé par terre, mort. En fait, il a fini cette fila plus tôt, et son allez-nous, il est parti. Et il est parti. Alors, ça, c'est une histoire, il n'y a pas de happy end. Il est niftar, il est parti. Donc, d'un côté, c'est une histoire qui fait de la peine, parce que tu dis, il est parti. Mais d'un autre côté, tu comprends à quel point, ça veut dire, de quel problème on parle ici. Tu comprends? Nous, notre problème, c'est même quand tu fais la mida, tu essaies de rester concentré 5 minutes. Ça, c'est notre problème, tu vois. Que pendant 5 minutes, tu vas pas penser à autre chose. Mais imaginez-vous le problème de ce tzadikim. Son problème, c'est, n'est pas est-ce que pendant les 5 minutes de la mida, il va penser à autre chose. C'est est-ce qu'il va pas s'envoler dans son alénou? Est-ce qu'il va pas s'envoler et mourir d'amour vers Dieu pendant son alénou? Ça, c'est son problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour nous montrer que c'est de cet amour qu'on parle ici. Est-ce que nous, on est à ce niveau? Non, on n'est pas à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut tendre vers ce niveau? On peut pas attendre. Est-ce qu'on peut viser ce niveau? Non, on peut pas viser, ça sert à rien. C'est pas un niveau qui est pour nous. Mais c'est simplement pour savoir, pour nous montrer jusqu'où peut aller l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça que je disais, Rabbi Lazamendordé, il a vécu exactement la même chose. Dans l'histoire que je vous ai racontée avec le Baal Shem Tov, avec l'Admor HaZaken, avec etc. Ça, c'est l'histoire des tzadikim qui ont vécu ça après plusieurs années de travail. La force de Rabbi Lazamendordé, c'est que lui, même après une vie mouvementée, en quelques instants, il a réussi à atteindre ce niveau. Et directement, il y a un vidéo au Gan Eden. C'est-à-dire qu'il a effacé toutes les fautes. Il n'y a plus de faute. Zéro faute. Rabbi. Ce minita, il me regarde, il est en train de me dire, il dit, bon, très bien, alors. Hein? Vous savez ce qui est écrit dans Pirkei Avot? C'est écrit, Rabbi Akiva, il dit, reviens un jour avant ta mort.
Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le jour. Tous les jours.
Mais ça veut dire que théoriquement, si on savait exactement l'heure à laquelle on allait mourir et qu'on fait teshuva un instant avant, c'est bon. Parce que un instant de vrai teshuva, de vrai amour, peut tout arranger. C'est ce que te dit l'Admor HaZaken. Seulement, te dit l'Admor HaZaken encore une fois, il te dit, ça, c'est une situation exceptionnelle. Ne compte pas sur un grand amour qui va te faire décoller.
Comment on sait qu'on a fait teshuva?
On voit qu'on revient vers Dieu. Et il sent qu'il revient vers Dieu. C'est seulement ce que te dit l'Admor HaZaken. Il te dit, ne compte pas sur cet amour pour venir tout seul. En général, les gens font teshuva comment? Par la crainte. Regardez, comment c'est que les gens en général, ils font teshuva à Rosh Hashanah Kippour? Pourquoi à Rosh Hashanah Kippour, les gens, ils s'arrangent? Parce que Rosh Hashanah Kippour, c'est l'amour ou la crainte? C'est la crainte. Ah, tu sais que t'es jugé, tu sais que c'est chaud. Tu dis, quand tu fais le bilan de l'année qui vient de passer, tu dis, bon, écoute, l'année qui vient de passer, il y a eu ça qui s'est passé, il y a eu ça qui s'est passé, il y a eu ça qui s'est passé. Fais pas le malin. Donc c'est pas la crainte. Et c'est pour ça que tu dis l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il te dit, si Dieu, de son côté, il veut décider de lancer la relation avec toi par l'amour, t'inquiète pas, il le fera. Ne l'attends pas que ça vienne. T'inquiète pas, si Dieu veut le faire, il le fera, il t'enverra un amour, et toi tu repartiras avec l'amour. Mais n'attends pas que ça vienne, parce que c'est pas l'ordre normal des choses. C'est l'ordre exceptionnel.
Mais que la teshuvah a été exaucée.
Bien sûr.
Pas seulement qu'on a fait teshuvah, mais...
Ah, ça c'est...
Nous, on se dit, on sait qu'on a fait teshuvah.
Quand on fait teshuvah, on doit être convaincu qu'on a été exaucé. Ça a été exaucé. C'est sûr. Pourquoi vous voulez pas que ce soit pas exaucé? C'est sûr. Aval, mais... Alors je prends la page 290. Aval, mais... C'est der avoda gvoa. C'est vrai que Dieu, page 290, hein. C'est vrai que Dieu, s'il le veut, il peut t'envoyer un amour qui va arriver ton amour sans passer par la crainte. Avec très peu de crainte, mais c'est que de l'amour, tu vas revenir vers lui. Mais c'est pas l'ordre habituel, c'est l'ordre exceptionnel. Aval me seder avoda akvua utluya bifrirata adam, l'ordre du service de Dieu fixe. Et qui dépend du libre arbitre de l'homme. Ça dépend pas de Dieu, ça dépend de moi. Non, moi je peux pas décider de dire avec mon libre arbitre j'attends d'avoir un amour vers Dieu. Ça n'existe pas, ça marche pas comme ça. Si tu veux un retour vers Dieu qui démarre par ton libre arbitre, là tzarich la'akdim trila kiyum haTorah v'mitzvot le diratata. Il faut commencer par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot au moyen de la crainte inférieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moyen d'abord de la crainte, de dire je fais la mitzvot parce que je dois les faire, parce que c'est comme ça, parce qu'on les a imposés, parce que c'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, quand on éduque un enfant, bien sûr qu'on essaie d'éduquer un enfant à l'amour, à la Torah, aux mitzvot, etc. Mais en vérité, on commence par la crainte. C'est-à-dire l'enfant, il te dit, si tu vas attendre que l'enfant il comprenne pourquoi c'est important de faire Shabbat avant qu'il fasse Shabbat, Hanun verachum.
Exactement.
D'accord? D'ici là. Ça marche pas comme ça. Il y a une question qui est posée dans la Gemara. Quand un maître, il enseigne aux élèves, comment il doit enseigner? Est-ce qu'il doit commencer par la crainte? C'est la question que j'ai posée au début du cours.
C'est la crainte qu'il a dit votre copain.
Alors, est-ce qu'il doit commencer par la crainte ou commencer par l'amour? Alors, vous allez me dire par la crainte. Mais d'un autre côté, il y a une autre Gemara qui nous dit qu'il y a un mec qui s'appelait Rava, il commençait toujours son cours par une blague. Ou un fait amusant. D'accord? Un fait divers pour détendre l'atmosphère. Or, si tu détends l'atmosphère, c'est plus la crainte, c'est l'amour. Alors, je comprends plus. Comment il faut commencer le cours? Est-ce qu'il faut commencer le cours avec la crainte, ou est-ce qu'il faut commencer le cours avec l'amour? Alors, Rabbi dit, la réponse est très simple. Il est évident que dans l'ordre d'enseignement, on commence d'abord par la crainte, après par l'amour. Seulement, on te dit, avant de commencer l'enseignement même, dès que tu commences l'enseignement, c'est la crainte suivie de l'amour. Mais avant de commencer l'enseignement même, pour faire en sorte que celui qui est en face de toi ait envie de t'écouter, tu lui mets une petite blague juste pour l'attirer un petit peu. Mais après, une fois que tu l'as attiré, et c'est ce que faisait Rava, Rava a raconté un petit fait divers, comme ça, pour attirer le regard et surtout l'écoute de ses élèves. Et après, une fois que ses élèves étaient attirés, là, tout d'un coup, il changeait de visage, un visage comme ça serein, et après, il recommençait son étude. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça marche. On doit toujours commencer par la crainte. Et même la blague que tu vas faire avant, c'est juste pour le mettre en condition. C'est comme le bonbon. Un enfant, il n'a pas envie de faire une mitzvah. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu lui promets un bonbon. Mais ça ne veut pas dire que je lui dis tu fais la mitzvah pour le bonbon. Le bonbon, c'est juste pour l'attirer. Après, il doit comprendre qu'on fait la mitzvah parce qu'il faut la faire, c'est tout. C'est la crainte de Dieu, c'est comme ça. Même si tu n'es pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il n'est pas content. Ben, tu n'es pas content. C'est comme ça. Il faut le faire. Je suis content, je suis pas d'accord. Il faut habituer un enfant dès le plus jeune âge qu'on doit faire ce que Dieu lui demande, c'est tout. C'est comme ça. Si tu habitues un enfant qu'il faut toujours que ça lui plaise, c'est comme c'est la mode aujourd'hui. Il faut que ça lui plaise, il faut que ça l'intéresse, il faut que ça lui parle, etc. Si l'enfant, quand il va arriver à l'âge de 20 ans, ça va lui parler de faire du CO2, ça va lui parler de faire du président, et ça va lui parler de faire je sais pas quelle bêtise encore, il dit ça me parle. Alors quoi, comment ça marche? Alors cette part du fait, on agit parce que ça me parle, Chasvei Shalom. C'est pas que ça te parle, il faut agir par rapport à ce que la Torah t'autorise. C'est autorisé ou c'est pas autorisé? Très important ce qu'il dit ici. C'est pour ça que tu dis l'amour à Zakaï. Il peut arriver parfois que certaines personnes reviennent par l'amour. Pas par quelqu'un qui fait les 400 coups et tout d'un coup il a un sentiment d'amour de la famille, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche en général. En général, la façon comment ça marche, c'est d'abord la crainte et après l'amour. Donc, dans les mots, tsarir, je suis deux paragraphes avant la fin de la page 290. Tsarir lehagdim trila kiyum atora vizot aledi iratata. L'ordre du service de Dieu qui dépend du libre arbitre de l'homme est qu'on doit commencer par la crainte. Puis prinat katnout al kolpanim, au moins par prinat katnout, ça veut dire au moins dans un état de petitesse, c'est-à-dire au moins une petite crainte que tu développes envers Akadosh Baruch Hu. Le sourmera va assez tov, ça veut dire en s'écartant du mal et en faisant le bien. Je termine. Lahir nafsho elokit, be'or atora mitzvotea, d'éclairer son âme divine dans la lumière de Torah et des mitzvot, va'achar kach yahir alea or ahava, et après il va éclairer sur lui la lumière de l'amour, qui ve'ahavta begimatria bet pamim or. Je termine avec ça. Vous prenez la valeur numérique de or. Or, en hébreu, ça veut dire quoi?
Lumière.
La lumière. Valeur numérique de la lumière, c'est 207. 2 fois 207 if, ça fait combien?
414.
414, c'est la gimatria de ve'ahavta, tu aimeras. Pour te dire quand tu commences par la crainte, tu commences par la lumière de la crainte, et qu'après tu rajoutes la lumière de l'amour, ça te fait double lumière. Et là tu as Ve'ahavta, là tu as le vrai amour. Tu ne peux pas commencer directement par l'amour, il faut commencer d'abord par la crainte. Donc voilà ce qu'on va retenir, on termine avec ça le chapitre 43. Bien sûr qu'on aimerait avoir directement l'amour d'Akadosh Baruch Hu, mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut commencer d'abord par la crainte. Par se lever le matin, mettre cette filine, respecter les mitzvot, même si tu n'aimes pas, même si tu n'es pas content, tu fais. Tu fais pas ce qu'il faut faire. Ira, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et après, avec le temps, à force de craindre Akadosh Baruch Hu, tu vas commencer progressivement à aimer Akadosh Baruch Hu. Si tu veux attendre que Dieu t'envoie le grand amour, que tu as envie de faire les mitzvot juste pour le kiff, ça, c'est un fait exceptionnel. Ça arrive, mais c'est très très rare. C'est très très rare. Ça m'est arrivé des fois, des gens qui me disent, j'ai envie aujourd'hui de mettre les tefillines. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent rien, j'ai juste envie. Mais c'est extrêmement rare. Je sais pas ce qu'il a eu comme mérite. Normalement, ça marche pas comme ça. Normalement, on commence par la crainte, on fait la Torah, on fait les mitzvot, on fait ce que Hashem demande, et après, on a ve'ahavta, on a l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je passe la parole maintenant à mon père, le Rav, à qui nous souhaitons Mazal Tov. Siman Tov, Mazal Tov, Elano.